Shalom les koulam, nous allons commencer le shiur, nous allons continuer le septième shiur sur Purim. C'est quand même impressionnant quoi. Autant de cours. À la yeshiva, tous ces cours, donc c'est pas de moi, c'est du Rav Yaakov Levanon de Yeshivat Haramor. Et Rav Yaakov Levanon nous a, c'était des cours, c'était je pense il y a au moins 18 cours de 2h30. Ça marche? Donc on peut faire toute l'année sur Purim. Mais on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste le début du shiurim, des choses qui sont compréhensibles par rapport à nous, parce que nous aussi, on a vécu un peu ça. Alors, on était au Makor 8. Le Makor 8, je ne rentre pas dans le texte. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'auteur du Zohar. Ils sont venus se présenter. Juste pour vous placer le truc. Purim, c'est la fin des 70 ans. Ensuite, on va construire le second temple à la fin. Combien le second temple va être à Yerushalayim? Shalom, shalom. 400. D'où tu sais ça? Ce que t'es ton machamir. Il a fait. Katit. Kav tav. Katit. Kav tav. Yud tav. Katit la maor. D'accord? La lod nertami. La paracha. Katit. Vous l'avez dans la tête? Katit? Nachon. Katit, c'est concassé. Concassé l'huile pour faire de l'huile pour pouvoir éclairer. Katit, c'est kav. Kav, c'est-à-dire tav. Yud tav. Tav, c'est combien? 400. Kaf, c'est 20. 420. 420 ans, c'est le temps du second Beth Amikdash. Et Yud Tav, c'est 410, c'est le temps du premier Beth Amikdash. Donc tu lui dis, oh, c'est l'inverse. Ben oui, parce que c'est ce que tu rencontres en premier. La première chose que tu rencontres, c'est le second. Et ensuite, le premier. Ça marche? On va rappeler. Donc, après les 70 ans d'exil, il y a Purim. À la fin, ben, sauf qu'ils reviendront. Ils vont reconstruire, ils vont continuer la construction du second temple que Achashverosh avait arrêté pendant 420 ans. 420 ans, venez maintenant, on calcule Goy parce que c'est plus simple pour nous. En quelle année le Beth Amikdash second a été détruit? 68. 68. C'est-à-dire, 68. Il y a une marloquette, un truc entre les Goyim et nous. Nous, on dit 68. Il y a fait. En 68. Donc, ça faisait 420 ans. En l'an 68, ça faisait 420 ans que le second Beth Amikdash était là. En quelle année on a écrit la Mishnah?
En 200.
En l'an 200, Rabbi Yehuda Hanassi. Ok? Donc ça fait 130 ans après la destruction du second temple, on a écrit la Mishnah. Ben, quelques années après, 20 ans, 30 ans avant la Mishnah, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ce qui veut dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça fait presque 500 ans l'histoire de Purim, et les élèves, ils arrivent devant Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait pourquoi Purim? Pourquoi Am Israël, à ce moment bien précis de l'histoire, il a été coupable de Shoah? C'est-à-dire, maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à Purim. Ne commencez pas à sortir du cours et être des accusateurs. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah en 39-45. J'ai pas dit ça. Mais les élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se posent la question à leur maître. C'est regarder, d'abord regarder, le recul de l'histoire. C'est-à-dire, dans 500 ans, après la Shoah, ils se poseront la question, pourquoi il y a eu la Shoah avec Hitler? Vous vous rendez compte le recul qu'il faut avoir par rapport à l'histoire? Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens faciles, ils disent ça, c'est à cause de ça. Ça, c'est à cause de ça. Attends, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils se posent encore la question. C'est-à-dire, toute l'époque d'Anshe Knesset Agedola, toute l'époque des Chachamim de la Mishnah, à Hillel Veshamay, toutes les Chachamim qu'on voit dans Pirkei Avot, ils n'ont pas donné une réponse claire, c'était pas clair pour eux. Et là, Rabbi Shimon et son Beit HaMidrash, ils sont encore en train de se poser la question, pourquoi il y a eu la Shoah Purim? Moi, je sais pourquoi il n'y a pas eu la Shoah Purim. Il n'y a pas eu la Shoah Purim parce que Esther et Mordechai, ils ont réussi à faire la hardoute, l'unité dans le peuple. Ce qui n'allait pas dans la Shoah de 39-45. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été accusé de Shoah à Purim? Les élèves ont répondu, allez, Khazara. La phrase c'est quoi? Nehenu, parle en ivrite. Nehenu, mesudato, shalotoracha. Ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas, il n'y a pas marqué, ils ont mangé. Il n'y a pas marqué, ils ont dansé. Il n'y a pas marqué ils étaient avec des femmes. Ils ont pas, il n'y a pas marqué ils ont fait l'idolâtrie. Il y a marqué un mot bizarre. Nehenu. Ils ont profité la Seouda du festin de Achashverosh. C'est-à-dire, de quel festin on parle? Il a fait 6 mois de festin et ensuite une semaine de festin où il a emmené tous les peuples du monde, dont Israël, dont les Juifs. Et donc, ils ont profité de ce festin. C'est quoi le coucher de Rabbi Shimon Bar Yochai?
Pourquoi
tous les juifs? Que les juifs de Shushan, ils doivent payer. C'était eux qui ont participé au festin à l'Elysée de François Hollande. Il n'y a qu'eux qui doivent payer. Ça marche? Ça, c'est la grosse couche de Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, donc c'est pour ça que je vais vous dire c'est quoi la véritable faute. La faute, en ivrite, elle est Ishtachavu la Tselem. Ishtachavu la Tselem. Ils sont prosternés devant la statue. Point. Rashi nous rappelle ça, parce qu'on connaît tous le Tanakh, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas étudié le Tanakh, je vous propose de lire ça. Alors, accrochez-vous, parce que c'est du latin. 39. Numéro 39. Je vais aller très vite, parce que ce texte, je le connais presque par cœur, parce que chaque année, je le relis. Mais avec autant d'empressement qu'avant. Numéro 39. C'est un long pavé en français. Vous l'avez pas ? Voilà, vous savez ce que vous avez ? Vous avez le... Non, pas l'année dernière. Le Mekoutsar. Il y a le M-Sheshesre Mekoutsar, le Tabor Mekoutsar, et il y a les Mekorot de Pourri Mekoutsar. Passez Bevakasha des... Tu l'as ? C'est tes feuilles, c'est bon ? Non, c'est ta feuille, elle est baissée ? Ah, ils ont pas fait, d'accord, c'est une autre, ok. Alors on y va. C'est extrait de Daniel 3. Maintenant, Daniel, le problème, c'est faire Daniel. Daniel, c'est un prophète, ouais. 39, tu l'as pas ? Alors ok, alors ils ont le Mekoutsar. Je suis prêt à passer du temps pour ça parce que sinon tu vas t'endormir là. Je vais te lire un texte, tu vas commencer à dire mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait en cours en français. En plus moi je suis pas Ronny Akrish donc j'ai un problème de diction. Ok tiens. Oui. Vous avez besoin encore de feuilles?
Non.
Ah vas-y alors. Ma mère elle m'aurait... Merci Hillel. T'es Ashkenaz, qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a qui déteignent sur les élèves, j'aime pas ça. On y va. Daniel, passage 3. Maintenant, regardez, c'est en français, hein, c'est marqué entre parenthèses en français, parce que Daniel, il a été écrit moitié en français, moitié en araméen. Tu lis Daniel, tu comprends rien. Daniel, c'est que de l'araméen. Il y a la traduction de Mitsudat David qui permet de comprendre. Sinon, Daniel, c'est très dur, c'est en araméen. Alors regardez, on y dit. En plus, c'est pas l'araméen qu'on a l'habitude de la Gemara, c'est l'araméen du Midrash, du truc, c'est difficile. On y va. Daniel, il dit la chose comme ça, on va lire ça ensemble, ok? Pour ceux qui sont sur Internet, qui n'arrivent pas à bien entendre, c'est Daniel au chapitre 3, au livre de Daniel, le prophète. On y va. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Maintenant, c'est très important ça. Quand il y a marqué la hauteur, ce n'est pas pour essayer de reproduire la statue de Nebuchadnezzar. Et là, hein, on parle des chiffres qui ont une importance, dit le Maharal de Prague. Le chiffre 6, c'est 60, et 600 000, c'est quoi ? 6. Ouais, c'est une chose à dire. Mais pourquoi le chiffre 6 ? Fin des temps, non. Pardon ? Yavan ? Non. 8. Tu as raison. 6, c'est. On aurait pu voir comme ça. 6, c'est la création du monde avant. Avant que quoi ? Avant Shabbat. Donc c'est quoi ? Chomriyut. On y va. Le Shabbat, c'est la Neshama. Les 6 jours de la semaine, c'est le corps. C'est la Chomriyut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je trouve ça... Maharal de Prague, il écoute ça il y a 400 ans. La matérialité. Il écrit ça il y a 400 ans. Le 6, c'est... On est en 2D ou en 3D? On est ni en 2D, ni en 1D, ni en 3D. Dans le monde matériel, on est en 6D. 6 dimensions. C'est le 6. OK? Maintenant, un informaticien ou un physicien, il travaille en 2D, en 3D. Tu lui poses la question, c'est du 3D ou du 6D? Il dit 6D, ça n'existe pas. 6 dimensions, ça n'existe pas. C'est 3 dimensions, X, Y, Z, X, Y, Z. Maintenant, on a posé une fois la question à Rav Shekhar, on a dit, mais alors, pourquoi c'est du... La matérialité, c'est 3D? Elle dit non. Parce qu'on est dans un monde matériel où il y a de la morale. Accrochez-vous. Je trouve ça magnifique. C'est un monde matériel, moral. Si c'était seulement un monde matériel, c'est X, Y, Z. D'accord? X et moins X. Quelle différence entre moins 3 et 3? Pareil, c'est sur le tir, c'est sur l'axe des X. Mais étant donné qu'on est dans un monde moral, il y a plus et moins. Il y a Tov et Ra. Donc c'est 6.
Pourquoi
6? Tu peux t'élever, tu peux descendre. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Tu peux aller à Ben Yehuda, tu peux aller à... Je vous ai dit, quand tu fais ton aléa, il faut décider. Merkaz Arav ou Merkaz Aya. Une personne qui fait les deux, c'est un monstre. C'est un monstre. Oula, j'ai peur parce qu'il y en a qui va se lever et dit j'ai décidé. C'est l'autre. Il ne faut pas. Vous comprenez le truc? Il y a moins et plus. Ça marche? Donc c'est 6. On y va. Tu as le corps et qui réagit, qui prend toute sa matérialité, c'est dans les 6 dimensions. Le point 7, c'est la Neshama. Donc si c'est la matérialité dans ce monde, il y a fait. Quand il fait 600 000 juifs, ben c'est facile. Il faut un corps de 600 000. 6, c'est avec 100 000, Shishim Ribou, il explique le moral de Pâques, c'est le chiffre le plus grand. Mais 6, ça reprend cette dimension de matérialité du corps qui est capable de recevoir la Torah, la Neshama. Ok, donc à chaque fois qu'il y a marqué le chiffre 6 dans la Torah, combien on avait d'enfants? La femme en Égypte, elle donnait 6 enfants. C'est aussi la réalisation dans la matérialité. On était en pleine matière. Donc, historiquement, géographiquement, politiquement, je ne sais pas combien on était, mais quand on veut exprimer qu'on prenait toute notre diffusion, notre proportion dans la matérialité, on parle du chiffre 6. Là, c'est ce qu'il veut, cette statue d'or. 60 coudées, large de 6 coudées. Je vais être lourd. Moshe Rabbeinu, la hauteur. Shesh Amot, 6 Amot, 3 mètres de haut. C'est-à-dire, tout le temps, le Shesh, il revient. Shesh. Zachouli, un minrage de Shesh Amot. C'est-à-dire, je ne l'ai pas rencontré, Moshe Rabbeinu, mais Shesh Amot. Il érigea dans la plaine de Doura. Maintenant, tu dis, ouais, Doura, Dara, Merpatli. La plaine de Doura, c'est là où ils ont construit la tour de Babel. Et là, tu commences à pleurer. Tu commences à dire, maman. Moi, je ne connais pas l'histoire. Regarde Nebuchadnezzar, il sait exactement combien la hauteur de sa statue doit avoir et dans quelle plaine il faut faire. Il faut la faire dans la plaine où on a construit la tour de Babel. Il récupère la génération de Babel. Parce que c'est Babel. Ça marche ? Dans la province de Babylone. Maintenant, juste pour vous faire des trucs aussi importants. Aman ou Amalek, il y a... On a vu une conférence ici de Dr Atia, docteur en histoire. Dr Atia, il vient donner sa conférence sur le nazisme. Et il expliquait qu'en fait, les nazis, la race aryenne, au niveau mystique, ils se disaient une race antidiluvienne, avant le déluge. Et donc, ils étaient purs. Et donc, cette race, elle était en voie de disparition. On devait la protéger dans son espace vital. Et les juifs était une race qui portait atteinte à la race aryenne parce que eux se disaient descendants de Noir, de Shem, et que eux ils étaient dans la Teva, dans l'arche de Noé. Ils étaient dans l'arche de Noé. Et ils ont eu des rapports incestueux. Et à cause de ça, c'est une mauvaise race d'humanité et elle est appelée à disparaître. Et nous, la race qui est avant le déluge et qui a été sauvé du déluge parce qu'on est monté dans l'Himalaya, on a été sauvé. Il y a une théorie nazie comme ça. Ils ont envoyé des chercheurs SS et des docteurs et des professeurs allemands en l'Himalaya pour retrouver, je ne me rappelle plus le nom de la ville, d'où vient la race aryenne. Cherchez sur Internet. Ok. Deux semaines après, ça s'appelle Siata Dishmaya Benimut Torah. Ça s'appelle de l'aide dans l'étude de Torah. Quand tu cherches quelque chose, les livres, ils s'ouvrent tout seuls. Il y a Maharal de Prague, il a écrit sur Pourim. Il a écrit un gros livre sur Pourim, Or Hadash, ça s'appelle. Et là-bas, qu'est-ce que j'ouvre et qu'est-ce que je découvre à la page? Il t'explique que Aman, il a pris une potence énorme. Une potence énorme de 50 coudées. Hamishim Ama. Et c'est sur ça qu'il va faire pendre, il va vouloir pendre, faire pendre à Mordechai Yehudi, Razé Shalom. Après, c'est ses enfants qui vont être pendus là-bas. Maintenant, tout le monde connaît Hamishim Ama, les 50 niveaux de quoi? D'impureté. Ah ouais, aussi. Et de pureté. 49e degré d'impureté, on était. Et on est arrivé au 49e degré de pureté avant Matan Torah. Et Matan Torah, c'est au-dessus du Da'at. Et on te dit, voilà, la potence de Aman, c'est les 50 niveaux de sagesse. Adeloyada, il faut dépasser le Da'at, arriver au niveau 50e, etc. Il y a fait. Tout ça, on connaît. Mais qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Que cette potence Aman, il disait d'où elle vient? 50 Amas, ça vient de l'arche de Noé. Il avait récupéré de l'arche de Noé. Et il voulait leur dire, nous, on n'a pas été tués. Vous allez être pendus par l'arche, parce que vous, vous êtes des gens corrompus. Nous, on est une race pure. 2000 ans après, 2000, combien? 2500 ans après, ça revient. C'est revenu. Ok, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on a l'impression que les goïms, c'est, ils connaissent rien, ils comprennent rien. Shum davar, zelon achon. Regardez, en roi Nebuchadnezzar, tous les détails. La hauteur de sa statue, l'endroit où il va faire ça. Et surtout, ce qui nous embête, c'est pourquoi il fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, on y va. Et le roi Nebuchadnezzar envoyait des émissaires pour assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les jurisconsultes et tous les chefs de province pour qu'ils assistassent à l'inauguration de la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar. Ça marche? Du bon français. Alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les jurisconsultes, tous les chefs des provinces pour l'inauguration de la statue Comment tu traduis statue en ivrite ? Tselem. Tselem. Ils sont prosternés devant cette statue, érigée par le roi Nebuchadnezzar. J'ai un cadeau aujourd'hui pour monsieur Ilan. Érigée par le roi Nebuchadnezzar. Je vais te donner ton cadeau à la fin. Chez nous, c'est des cadeaux spirituels. Hein. T'attends à rien matériel. Nous, on n'est pas du chiffre 6, on appartient au chiffre 7. Ça veut dire ? Érigée par le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent face à la statue. Donc, tous les gens érigés par Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix, « À vous, nations, peuples et idiomes, s'adresse cet ordre. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de l'assemblée, du saint-héros, de la cornemuse, de toute autre instrument de musique. » Il nous en manque des instruments, Shmuel. « Vous prosternerez pour adorer la statue d'or érigée par le roi Nebuchadnezzar. Quiconque s'abstiendra de se prosterner pour adorer sera sur l'heure même jeté dans la fournaise ardente. » Comment s'appelle fournaise ardente ? Kifshan Haesh. En conséquence, au moment où toutes les nations entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de l'assemblée du psaltérion et de toute espèce d'instrument de musique, toutes les nations, tous les goïms, tous les peuples, tous les idiomes adorèrent la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar. Mais alors, au même moment, des individus chaldéens s'avancèrent et dénoncèrent les juifs. « Ô roi, dirent-ils, au roi Nabuchodonosor, puisses-tu vivre éternellement ? Toi, ô roi, tu as émis l'ordre que tout homme, en entendant le son de la trompette, de la cornemuse, et de tout autre, et de toute espèce d'instrument de musique, se prosternera pour adorer ta statue d'or, tselem, et que quiconque s'abstiendra de se prosterner et adorer sera jeté dans la fournaise ardente. Or, il y a des hommes, des judéens, des juden, que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, c'est des préfets chez toi, qui sont Shadrach, Meshach, Abednego. » Alors ça, qui sont Shadrach, Abednego et Abednego ? C'est Hanania, Mishael et Azaria. Hanania, Mishael et Azaria, trois juifs qui étaient nommés à la tête des provinces. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eux, ces hommes-là n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils n'honorent point ton Dieu et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Ils ne sont pas prosternés. Ce qui veut dire de là que tous les juifs du monde ont s'est prosternés. Tous se sont prosternés devant le Tselem. Seuls trois juifs ne se sont pas prosternés. Hanania, Michaël et Azaria. Il était pas là. T'as raison, c'est une super question ce que tu as. Mais là, on est 70 ans avant l'histoire de Mordechai à Shushan. Je sais pas. T'as raison. Vous avez entendu ce qu'il dit ? Et Mordechai, il s'est prosterné ou pas ? On n'en parle pas. Peut-être il était... Non, il était né, c'est sûr. Mais peut-être il s'est caché, peut-être... T'as raison, il y a un problème là. Alors Koucha, alors Nebuchadnezzar, plein de colère et de fureur, ordonna d'emmener Hanania, Michel et Azaria, et aussitôt ces hommes furent amenés en présence du roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce avec préméditation, Hanania, Michel et Azaria, que vous n'honorez point mon Dieu et n'honorez pas la statue d'or que j'ai érigée ? Or donc, si vous disposez au moment où vous entendrez le son de la trompette de la flûte, de toute autre espèce d'instrument, à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite, c'est bien. Mais si vous ne l'adorez pas, dit Nabucodonosor, sur l'heure même vous serez jeté dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra vous sauver de mes mains ? Hanania, Michel, Vazaria répondirent au roi. Regardez comment il faut répondre à l'ONU. Regardez comment Bibi Netanyahu aujourd'hui doit parler au Congrès. Cher Obama, nous ne jugeons pas nécessaire de te faire aucune réponse à cet égard. Si notre Dieu, si Hachem, que nous honorons, est capable de nous sauver, il nous sauvera bien de la fournaise ardente ainsi que de ta main, ô majesté. Et sinon, sois bien sûr, ô roi, que nous n'honorons point ton Dieu et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Barak fut rempli de fureur au point de changer de figure contre Hanania, Michel, Vazaria. Et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était nécessaire de la chauffer. Puis il enjoignit à quelques-uns des gens des plus vigoureux de son armée de garrotter Hanania, Michel, Vazaria et de les jeter dans la fournaise ardente. Marchomo, Vachem, Zichro. Aussitôt, ces hommes furent garrottés avec leurs caleçons, leurs chemises et leurs manteaux et autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. En raison de cette circonstance que, sur l'ordre pressant du roi, la fournaise avait été chauffée à outre mesure, les gens qui avaient soulevé Hanania, Michel et Azaria furent tués par le jaillissement du feu. Quant à ces trois hommes, Hanania, Mishael Vazaria, ils tombèrent tout garrottés dans la fournaise ardente. Mais alors, le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur et se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers. « N'est-ce pas, s'écrit-il, trois hommes que nous avons jetés garrottés dans le feu ?» Ils répondirent et dirent au roi, « Assurément, au roi. » Il reprit, « Mais je vois quatre hommes débarrassés de liens circuler au milieu du feu, sans qu'ils aient aucun mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un être divin. » Aussitôt, Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et s'écria, « Hanania, Michel, Azaria, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Hanania, Michel, Azaria sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent et examinèrent les hommes. Le feu n'avait pas eu d'action sur leur corps. Les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés. Leurs vêtements n'étaient pas détériorés. L'odeur même du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, regardez. Sois loué le Dieu de Hanania, Michel, Azaria qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs qui ont confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et fait bon marché de leur corps, ne voulant honorer et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Aussi est-il décrété par moi que toute nation, tout peuple ou idiome qui parlerait du mal de Bibi Netanyahou soit taillé en pièces et que sa maison soit convertie en cloque, car il n'est pas d'autre Dieu qui puisse sauver de la sorte. En même temps, le roi combla de faveur Hanania Michel Vazaria dans la province et le Nebuchadnezzar, toute la nation du Judas qui habitait à Adonin. Les miracles, les prodiges que qu'Hachem a accomplis à mon égard, j'ai trouvé bon de les faire connaître. Combien grands sont ces miracles et puissants ces prodiges. Son règne était règne éternel et sa domination s'étend d'âge en âge. Messirou Nefesh pour Hachem. Messirou Nefesh pour le Ham Israël. Kiddush Hachem, énorme dans le monde entier. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Parce que ça nous paraît un petit peu, ouais, un miracle. Et ça rappelle les miracles quoi, de Avraham Avinu. Il était Kivshana Esh dans la fournaise ardente. Lui aussi, il est sorti. Il y a 10 ans de ça, il y a eu, en 2005, il y a eu le démantèlement de Gouche Katif. On a abandonné Gouche Katif. Gouche Katif, c'était un paradis en Eretz Israël. C'était des oasis, des plages, plein d'Ishuvim, plein de Torah, plein de... Une vie énorme. Il y avait plus de 1000 juifs qui habitaient là-bas. Plus de 1000 familles, les rats, qui habitaient là-bas. Avant Gouche Katif, pendant 6 ans, ils ont reçu sur la tête 6000 patzmarim, 6000 mortiers qui tombaient sur eux de Gaza. Et ils continuaient leur vie, etc. Et il y avait tout le temps des attentats, tout le temps des terroristes qui rentraient dans les... Parce qu'il y avait beaucoup d'agriculture, beaucoup de serres, etc., qui faisaient développer l'agriculture, toutes les salades sans verre. Tout ce qui est rapport avec les vers, il faisait pousser à même le sable, et ça permettait que les vers ne puissent pas venir. Et donc, il y avait une production énorme de l'agriculture, plein de serres dans toute cette région du Gouche Katif. Un jour, des mechablim sont rentrés dans le Gouche Katif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'ai oublié le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est Shimon, il va voir le Rav Shmuel Eliyahu, le Rav de Tzfat, le fils du Rav Mordechai Eliyahu. Et lui dit, voilà, je ne suis pas religieux du tout, mais il s'est passé une chose extraordinaire dans ma vie, et je veux savoir ce que ça signifie. Et donc le Rav, il lui demande, raconte-moi ton histoire. Et Shimon, il lui raconte son histoire. Il lui dit, voilà, j'étais soldat en Milouim, et j'étais dans le Gouche Katif. Et ce même jour où j'étais soldat, cette même période, il y a des mechablim qui sont venus, des terroristes qui sont pénétrés dans une serre. Ils ont attendu toute la nuit. Le matin, quand les gens ils sont arrivés travailler, ils ont commencé à les canarder, à tirer sur eux. Et au même moment, il y a un soldat qui a été blessé. Il est tombé en plein par terre. Il y a 2 jeeps qui sont arrivés. Moi, j'étais dans une de ces jeeps. Et on se rapproche. Et on est là. Et on voit le patsoua qui est entre nous et les terroristes. Les terroristes sont derrière les serres, ils se cachent. Et nous, on est là. Maintenant, c'est un patsoua, c'est un blessé. On doit le sauver. Les 2 jeeps, qu'est-ce qu'ils décident? De s'approcher. Ils s'approchent à côté du patsoua. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire? De descendre pour récupérer le blessé et le mettre dans une des 2 jeeps. Maintenant, la jeep, elle est blindée. Ils ouvrent les portes. Les portes RCO, ils peuvent les protéger, ça sera du blindé. Mais quand ils vont être à terre, ils sont à découvert. Et les mechablim, les terroristes, vont tout de suite tirer. Shimon, il dit, j'ai pris la décision que moi, je descends et que je prends le patsoua et que je remets dans la jeep. On lui dit, mais attends, fais attention. Quand on va descendre, quand on va s'arrêter, tout de suite, ils ne vont pas s'arrêter de tirer. Mais c'est pas grave, je le fais. Il faut le sauver, il est en train de mourir. Ils emmènent les 2 jeeps, ils ouvrent les portes et Shimon, il descend. Et quand il descend, des rafales. Et Shimon, il raconte, il avait les cheveux longs. Il raconte que les balles elles passaient à côté de lui. Et il brûlait ses cheveux. Il y avait des balles qui passaient à côté, qui brûlaient ses cheveux. Mais aucune balle ne se faisait atteindre chez lui. Le patois, il n'a pris aucune balle. Il prend le patois, le blessé, il le met dans la jeep, et comme ça, il l'a sauvé. Et il dit au Rav Shmuel Eliyahu, mais comment c'est possible, un miracle comme ça? J'étais dans le feu et je suis sorti intact. Il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Shimon ben Chamou. Tu t'appelles Shimon ben Chamou? Alors je comprends. Shimon ben, le fils de Chamou, Chet, Hanania, Mishael, ve Azaria. Hanania, Mishael, ve Azaria. Quand tu vas dans le feu, mais tu fais ça pour l'âme Israël, pas pour montrer que t'es Superman. Tu fais ça parce que tu sais que tu dois sauver l'âme Israël. Et tu fais ça face à des terroristes qui veulent porter atteinte à l'âme Israël. Tu fais ça, Béchem Hachem? Alors, Hachem, Bézrat Hachem, il te protégera. Hanania, Mishael, ve Azaria. Toute la famille Ben Hamou, c'est Ben de Hamou. Hanania, Mishael, ve Azaria. Tu savais ça? Ça va, s'il y avait un dur avant, tu faisais ça. Ham, ouais. Chaud. Ils sont chauds, les Ben Hamou, ils sont chauds. Hein? Il est en Milouim.
Ah, en Milouim.
En Milouim, t'as là. Pas dit dans la vie, en Milouim, il y en a qui ont les cheveux longs. Ok, Hanania Mishael ve Azaria. Maintenant, il a fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, ces trucs-là. C'est qu'on est en train d'assister ici à toutes les personnes qui étaient à l'époque de Nebuchadnezzar. Donc, tous les juifs, ils sont prosternés, sauf trois. Je suis d'accord avec Aaron. Moi aussi, je ne peux pas comprendre que Mordechai s'est prosterné. Mordechai, il a dû se cacher. Ah, tu vois, voilà, on a un truc. On dit Daniel. Et Daniel, il s'est prosterné. Daniel, il ne s'est pas prosterné. Il s'est caché, il a fui. Il a tout le temps évité la rencontre avec la statue. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait passer ses statues, il faisait venir les peuples, et tout le monde devait se prosterner. Et Daniel, il a trouvé, ah non, j'ai du travail, au nom du roi, je dois partir. Mordechai, il a dû faire la même chose. C'est-à-dire, il a dû trouver un foufure. Mais la Gemara, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, c'est la faute. C'est la faute. Ça fait depuis Nebuchadnezzar, tous les juifs, ils étaient chayav de Shoah. Ça s'est passé à Pourim parce qu'à Pourim, ils pouvaient réparer la faute, ils l'ont pas fait. Mais la maladie, elle a commencé à l'époque de Nebuchadnezzar. Quand tous les juifs du monde se sont prosternés devant Nebuchadnezzar. Maintenant, je lis de façon superficielle la Gemara, j'arrive à la conclusion. Les juifs ont été chayav d'extermination totale, chas v'shalom. Parce qu'ils ont fait Avodah Zara, ils ont fait de l'idolâtrie. D'accord ? Maintenant, regardez. Et j'arriverai à une erreur énorme. Parce que l'idolâtrie, le meurtre et les mœurs, on a dit c'était l'exil, pas la destruction totale. Maintenant, regardez un Tosfot extraordinaire. Sinsugia, tu... Regardez au Makor 14. Regardez au Makor 14. C'est dommage, t'as pas de feuille, Sacha. Non, mais j'ai pas d'autres feuilles, c'est ça le problème. Ouais, tu vois. Alors, regarde, tiens, Aaron, moi j'ai une feuille pour toi. 14. Dans Avodah Zara, il est marqué, ma sœur est Avodah Zara. C'est des Gemarot, c'est ça qui est extraordinaire. C'est tout est marqué, c'est des Gemarot. C'est pas du Rav Kook, du Rav Aviner. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est extraordinaire. Mais déjà, tu dis non, c'est une certaine pensée. Gemara, Rashi Tosfot. Daniel, tout est marqué. Ce qu'on a vu, c'est tous mes fourrages. Ezra, c'est clair. Megillat Esther, Rashi sur la Megillah. Tout est clair, il n'y a rien de... Ah oh, non, moi je le comprends différemment. Tout est marqué noir sur blanc. Regardez Makor 14, c'est un extrait de Maseret Avodah Zara. L'extrait de Maseret Avodah Zara, c'est pas par hasard. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est marqué. Et de là, Tosfot prouve une preuve énorme. On y va. Maldirtiv, qu'est-ce qu'il dit donc marqué? Mishamayim, Mishmatadin, Eretz. Non, Mishamayim, Mishmatadin, Eretz, Ire, Veshketa. Eretz, Ira, Veshketa. Imira, la Mashketa, Vimshketa, la Maïra. Et la Bitrila, Ira, Ulbasov, Shketa. Amarlehem, vous l'avez Amarlehem? Amarlehem, Akadosh Boruchu. Il leur a dit Akadosh Boruchu, Mikem, de vous, Yavou. De vous les goïm. Yavo, ils viendront. Ve Yahidou, c'est quoi Yahidou? Ils témoigneront. Bahen be Israël, sur Israël, où je traduis par en faveur d'Israël. Shekiyimu et Torah kula. Que les juifs ont toujours fait toute la Torah. Sympa. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il appellera les goyim. Il dit, vous critiquez Israël. Tout le temps, vous essayez de délégitimer Israël. Mais vous-même, vous viendrez témoigner comme quoi Israël a fait toute la Torah. Yavo Nimrod. Viendra Nimrod. Veyaïd Bavram. Il témoignera en faveur de Avram Avinu. Shelo Avad Avodat Kochavim. Que Avram Avinu ne s'est pas prosterné aux idoles de Nimrod. Il doit venir témoigner et dire, oui, je reconnais, Avraham, il n'a jamais fait de l'idolâtrie. Ça marche ? Yavo Lavan, viendra Monsieur Leblanc. Veyaïd Beyakov, il témoignera en Yaakov, en faveur de Yaakov, chez l'Onershad à la gazelle, qui n'est pas suspecté de vol. Tavo Eshet Poutifera, viendra la femme de Poutifar, qui a séduit, qui a voulu séduire Yosef. Vetaïd be Yosef, et elle témoignera en faveur de Yosef, chez l'Onershad à la Vera, qui n'est même pas suspecté de la Vera. Parce que qu'est-ce qu'il fait Yosef? Au moment où il est en danger, il fuit, il est prêt à perdre tous ses habits. Parce que tous ses habits, c'est quoi les habits? C'est réalisation de l'homme. Toutes les réalisations, c'est pour emmener la Kdoucha. Si à cause de ses habits, ça attire la femme de Poutifera, il enlève tous ses habits, il dit « Je pars, je ne veux plus être habillé. » Maintenant, regardez. « Yavo Nebuchad Netza viendra Nabucodonosor, Veyaïd et témoignera en faveur de Hanania, Michel, Vazaria, en faveur de la famille Benamou, Shelo Ishtachavo Latzelem, qui ne se sont pas prosternés à la statue. De la Tosfot, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachid, la blague dans je vous apprends des blagues de Bachur Yeshivot. La blague des Bachur Yeshivot sur Rabbeinu Tam, c'est Tagidli, Aïma chez Rabbeinu Tam, la mère de Rabbeinu Tam, quelle tefilin elle mettait? Ok, tu t'arrêtes là et tout le monde éclate de rire. Ah là là, c'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas? Ça vous fait pas rire? La blague de Rabbeinu Tam, la mère de Rabbeinu Tam, quelle tefilin elle mettait? Alors tout le monde éclate de rire parce que c'est une blague. Mais tout le temps, parce que les filles de Rachid ont dit qu'elles mettaient les tefilin. Ne pas écouter sur internet parce que ça risque de faire des catastrophes. Les filles de Rachid mettaient les tefilin. Il y a quelle? C'est spécial, c'est une dimension autre. Stop, maintenant une femme qui veut faire ça pour se sentir homme, il ne faut pas qu'elle mette les tefilin. Ou pour faire comme les hommes, il ne faut pas qu'elle mette les tefilin. Kitsu, en tout cas. Et elle mettait les tefilines. Donc là-bas, la blague, c'est elle mettait les tefilines de qui? De son père, Rashi, comme nous, ou de son fils, Rabbeinu Tam. Ok, c'est super, non? Vous vous rendez compte le degré? Comme j'ai dit une fois, il y a...
Il y a des moments où elle ne pouvait pas les toucher, les
tefilines. On a de... Comment on appelle ça? Une fois, il y a mon beau-père, il m'a demandé, il m'a dit... À chaque fois, on était à une Beit Knesset, je dis, ah, vous voyez celui-là, là, il a étudié avec moi les Yeshiva, c'est un Talmid Racham énorme. Ah, tu vois, d'accord. Ensuite, je dis, ah, vous voyez celui-là, il étudie avec moi, c'est un Talmid Racham hors pair. Mais celui-là, c'est... À la fin, il me tourne vers moi, il fait, mais toi aussi, t'es Talmid Racham. Je dis, non, il fait, c'est quoi la différence entre toi et eux? Je dis, moi, et eux, c'est, elle est facile la différence. Lui, quand tu le racontes une blague, il comprend rien. Moi, quand tu me racontes une blague, je comprends. Ça va dire? Il a fait, Meod. Non, justement. Ah, vous n'avez pas compris la blague. Ok, ça marche. 16. D'abord, je vous pose la question. On va voir si vous êtes des vrais Talmid Chachamim. Le Mifran, c'est sur la Gemara. La Gemara, c'est Rabbeinu Tam. De cette Gemara, il prouve que la statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de la Avodah Zara. Allez. De cette Gemara qu'on vient de dire dans Maserhat Avodah Zara, Tosfot, il lit, il a des oreilles de Torah, Tosfot. Rabbeinu Tam, il a des oreilles de Torah. Il dit... De cette Gemara, j'ai une preuve. Et c'est comme ça qu'il va résoudre le problème de Pourim. Que tous les juifs du monde entier se sont prosternés devant la statue, c'était pas de la Avodah Zara. Il n'y avait aucune Avodah Zara.
Oui, c'est un peu obligé. Abraham, il est témoin déjà à propos de. Quand il mourra, quoi, qu'il y avait la Avodah Zara. Donc forcément, ça ne s'agit pas d'un cas de la Avodah Zara.
Chazak Ovoror, c'est la preuve du Rabbeinu Tam. Il te dit maintenant, tu vois le texte ou tu lis pas le texte? T'as des oreilles ou t'as pas des oreilles? Dans le texte, il y a marqué que Nimrod viendra témoigner en Avraham qui ne s'est pas prosterné, qui n'a pas fait Avodat Gilurim, Kochavim, qui ne s'est pas prosterné devant les statues. Nachon? Shelo Avad Avodat Kochavim. Mais quand on parle de Hanania, Michel, Vezaria, on dit que le Ishtachavu la Tselem, il ne soit pas prosterné devant la Tselem de la statue. Et de la regarder, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam ? Makor 16, en bas. Chez lo Ishtachavu la Tselem, Omer Rabbeinu Tam, de Tselem de Nebuchadnezzar, la Voda Vodkor Havim Hu. La Tselem, la statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de la Voda Zara. Et là, Andarte. C'est une Andarta. Andarta en hébreu aujourd'hui, c'est un monument en l'honneur d'eux. Par exemple, une andarta, vous voyez, quand vous allez, vous ne connaissez pas ça, le centre-ville de Yerushalayim, Baruch Hashem. Vous arrivez comme ça, vous arrivez à Kikar Davidka. Alors là, il y a comme ça, avec les gens qui sont tombés pendant la guerre, c'était Davidka, c'était le premier mortier qui ne marchait pas, mais qui faisait énormément de bruit, ça faisait peur aux Arabes lors de la guerre d'indépendance de 1948. C'est ça qui nous a permis de repousser les Arabes, une partie des Arabes. Et il y a les gens, les soldats, les noms des soldats qui sont tombés pendant cette guerre. Quand tu ériges un monument en souvenir d'eux ou en l'honneur d'eux, ça s'appelle une andarta. Ça marche ? Andarti, c'est, regardez la suite, Asui lirvod ameler. C'est fait pour l'honneur, la gloire du roi. C'est comme, il marchait Mavushem Ziro, Staline, il avait sa statue, où il avait son portrait, tout le monde devait se présenter devant lui et faire le signe ou se tenir debout. Donc qu'est-ce qu'il fait Nebuchadnezzar ? Il se prosterne devant ça. Maintenant, bam ! Les Juifs du monde entier se sont prosternés devant ça. Hanania, Michel, Vazaria, ils sont mis en danger pour ça. Et là, tu comprends plus rien. Alors que juste maintenant, qu'est-ce que tu faisais ? Tu regardais Hanania, Michel, Zaria. Regarde, quand tout le M, il fait la Avodah Zarah, regarde ces trois tzadikim, mais ils font pas. C'est les vrais tzadikim ! C'est des vrais tzadikim ! C'est eux, Hanania, Michel, Vazaria, la famille ! Nissim, c'est Hamou. Nissim, c'est vraiment Hanania, Michel, Vazaria. La famille Hamou, ça c'est vraiment la famille du Ham Israël. Regardez-vous, honte à vous, vous faites de la Avodah Zarah. Nahon ? Puis Tom Rabbeinu Tam, il te dit, c'était pas de la Avodah Zarah. C'était pas Avodah Kohavim. C'était juste une statue en l'honneur de Nebuchadnezzar. Là, qu'est-ce que tu fais ? Là, qu'est-ce que tu fais ? Réveillez-vous, là. Qu'est-ce que tu fais ? Non, tu te tournes vers Hanania, Michel, Vazaria et tu leur dis, ce que vous avez fait, c'était assourd. C'était assourd ! Tu te mets en danger ? Pour pas se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, où c'est marqué ça ? Où c'est marqué ça ? Trouve-moi le Shulchan Aruch qui dit que t'as pas le droit de te prosterner devant François Hollande, ou devant la reine d'Angleterre, ou devant le roi Nebuchadnezzar. Où c'est marqué ça ? Moi je te montre la halakha. Nachon, tu dois te laisser mourir pour Avodah Zarah. Nachon, que tu dois te laisser mourir pour Gilui Arayot et pour Shvirut Damim. Mais pour pas donner du kavod à Nebuchadnezzar. C'est un nouveau Shulchan Aruch. Nachon, c'est le Shulchan Aruch d'Eretz Israël. C'est le Shulchan Aruch de Eretz Israël. Où tu ne te prosternes pas devant Nebuchadnezzar. Maintenant, pourquoi ?
Si on sait que ça va lui faire honte et qu'après il va nous envoyer en prison, quoi, parce qu'on ne s'est pas prosterné devant lui.
Il va nous tuer.
Mais comme c'est un chef d'État, on peut, non ?
Alors, c'est ça la Sougia ! On est en pleine Sougia, là ! Nahon, tu dois parler. Alors, juste, on est en plein Sougia. Hanania, Michel, Vazaria, contre tout le Ham Israël, ils ont dit on se prosternera pas. Tous les rabbins, ils ont dit il faut se prosterner. Vous faites honte au peuple d'Israël. Vous faites honte à tous les juifs. Il faut se prosterner devant Nebuchadnezzar. Si vous ne vous prosternez pas devant Nebuchadnezzar, non seulement vous mettez en danger comme Mordechai Yehudi. C'est pour ça que Mordechai Yehudi rentre dans Hanania, Michel, Vazaria. Tu te prosternes pas, tu nous mets tous en danger. Et Mordechai, il sait ça. Quand il va pas se prosterner devant Haman, il sait qu'il doit réparer la faute du Tselem où tous les Juifs sont prosternés. Mais alors qui a raison ? Ben c'est facile, hein. Rabbi Shimon Bar Yochai donne raison à Hanania, Michel, Vazaria.
À cause de ces trois, il y a une...
Mais alors pourquoi ? Comment les Juifs ils ont pu se tromper ? Je vais vous dire pourquoi. On y va. Nebuchadnezzar. Des répercussions énormes. Il y a eu un danger de Shoah. Et ensuite, peut-être, il y a eu la Shoah après. Non, donc ils ne sont pas trompés. Non, mais peut-être ils ont dit que c'était mérite particulier qu'on fait. Mais quand ils ont vu qu'ils ont été vivants, là, ils ont compris l'erreur. Et le Ham Israël, ils savaient. Et grâce à Hanania, Michel, Vazaria, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur énorme et qu'ils devaient la réparer. et qui devait la réparer. Gardez-en ça. Les rabbins, ils ont compris ça. Le peuple, il comprend rien. Les chachamim de l'époque, ils ont compris. Parce que c'était, même si ce n'était pas Avodah Zarah, ils ne devaient pas se prosterner. Et Hanan Michel Vazaria, il doit prouver. Il y a un midrash extraordinaire. Hanan Michel Vazaria, la veille de ça, qui ne vont pas prosterner, qui savent qu'on va les forcer à se prosterner, ils ne vont pas se prosterner, on va les jeter dans le Kishanaesh. Ils vont voir Daniel. Ils vont voir Daniel. Il lui dit, il va avoir un miracle ou pas? Si on ne se prosterne pas et qu'il nous jette dans le Kifshanaesh, on sort vivant ou pas? Il dit non, il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Pourquoi il n'y aura pas de miracle? Parce qu'ils sont du niveau. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'y a pas de miracle. Miracle, c'est on va sortir des ordres de la nature et Hachem, il va changer l'ordre de la nature pour vous sauver. Non, Hachem, il a laissé l'ordre de la nature. Ils sont du niveau où le Hesh ne peut pas les détruire. Vous savez pourquoi? Parce que rien ne peut détruire Israël. Et à ce moment-là, ils sont en train, dans leur corps, de représenter Israël tout entier. Et le Hesh ne peut pas les atteindre. Comme Avraham Avinu. Il n'y a rien de plus naturel que le feu ne brûle pas Avraham Avinu. Parce que là, il représente Israël. Yaakov.
Alors, tous les jeux qui font mort...
Ok, c'est là. Il y a une période, c'est là. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. Pour l'instant, je ne peux pas te répondre à cette question très dure, comme tu dis. Je suis en train de t'expliquer, je ne peux pas s'expliquer, mais il y a des lois et il y a des... Pourquoi alors dans ce cas, c'est séparé? Pourquoi dans ce cas, il est mort? Pourquoi dans ce cas, le truc? Tu as raison, il faut... Colmicré les gouffres, chaque cas, il faut étudier. Mais est-ce qu'ils sont morts parce que... Ah, ça veut dire que c'était des Rechaim? Non. Mais toi, le Kiddush Hashem, ils sont morts en sanctifiant le Nakadash Bourou. Mais eux, à ce moment particulier de l'histoire, le feu ne peut pas les atteindre parce qu'ils représentent Israël. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire derrière la statue, c'est très simple. Tout est marqué dans les psukim de Daniel. Un beau jour, Nebuchadnezzar, il a mal dormi. À cause de ça, il n'a pas pu se lever à la tefila. Il a appelé Daniel, tous ses sorciers. Il commence à dire, allô, j'ai fait un rêve. Je ne me rappelle même plus le rêve que j'ai fait, mais c'était un rêve horrible. C'était un rêve horrible. Et là, hein, Daniel vient et lui dit, je sais ce que tu as rêvé, par prophétie. Je sais ce que tu as rêvé et je vais te le raconter.
Daniel, c'est celui qui avait aussi découvert pour la main.
Voilà. Daniel était toujours proche des rois. Le premier de Nebuchadnezzar. Depuis tout petit. Tu te rappelles l'histoire où il ne mangeait pas de la viande, il n'a mangé que des légumes pour manger cachère. Tu te rappelles ça, on raconte quand on est enfant. Au Marmir, on essaye de perdurer ce minable. Pour être des petits Daniel. En tout cas, Beno, tu es avec nous? Bien fait. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se présente devant Nebuchadnezzar et dit, je vais te raconter le rêve. Tu as rêvé d'une grande statue. Ça me dit quelque chose. Oui, il y avait une tête d'or, William Shakespeare. Ensuite, il y a eu le corps d'argent. Ensuite, le bas des reins et les pieds de terre. Et il y a une tête qui arrivait, une boule qui arrivait et qui a fait tomber toute cette statue. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est les quatre empires. Il va avoir Babel, toi, t'es la tête d'or, t'es le premier. Ensuite, il va avoir Perse et Mède. Ensuite, il va avoir Yavan. Et ensuite, il va avoir... les Roms, c'est les pieds d'argile.
C'est pas la Géoula, comment elle arrivera aussi?
Et la Géoula, comment elle arrivera? La tête, c'est Israël, la boule, c'est Israël. Et elle vient détruire tout ça. C'est le Melech HaMashiach qui viendra tout emporter. À la fin, c'est l'Empire d'Israël qui gagnera. Et là, Nebuchadnezzar, quand il entend ça, il dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je suis pas éternel. C'est-à-dire qu'on va tomber, on va changer la décision des dieux. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De faire pas une tête d'or, une statue entière d'or. Et que tout le monde doit se prosterner devant elle pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre empire après. Il n'y a ni d'argent, ni de terre, ni d'argile, ni d'une boule qui va détruire. Tout est en or! Donc quand tu se prosternes devant la statue de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que tu es en train de reconnaître? Que le Mashiach, il viendra pas! Que le Mashiach, il viendra pas, Chas v'Shalom! Alors bien sûr, dans le Shulchan Aruch, quand tu ouvres le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué, tu n'as pas le droit de te prosterner devant une statue, qui dira que le Mashiach ne viendra pas? C'est marqué ici, ça. C'était pas shoot, ça.
Même question de vie.
C'était marqué dans le cœur de Hanania Michel Azaria. Comment, toi, juif, t'es en galoute, tu vas te prosterner pour reconnaître l'éternité du royaume de Babel, de Nebuchadnezzar? Mais comment c'est possible? C'est tout le contraire du but du Ham Israël. Vesral et Galgadol, je ferai de toi une grande nation. C'est tout le but de la sortie de la galoute, arriver à la Géoula, retrouver notre état, retrouver notre Beth Amikdash, retrouver le roi d'Israël, retrouver Malchut David. T'es en train de prosterner devant? Oui. l'éternité du roi Nebuchadnezzar. Et Melech HaKadosh Baruch Hu, tu l'as oublié? Melech Malchim Melachim HaKadosh Baruch Hu, Malchut David, Mashiach, tu l'as oublié? Tous les juifs du monde entier se sont prosternés et au même moment, on dit, on ne veut plus de royaume de David.
C'était par crainte.
C'était par faiblesse, c'était par tout ce que tu veux. En tout cas, ça a été compté comme une faute. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Rav de Shalom, si vous ne voulez plus être une nation, parce que vous ne voulez plus retrouver la royauté, alors vous n'avez plus de raison de vivre. Fini l'histoire du Ham Israël, Rav de Shalom. Il y a des actions, tu fais des bêtises. Tu peux faire plein de bêtises. On n'est pas des malachim. Nachon. Maintenant, il faut reconnaître que tu as fait la faute. Et tu fais tchouva et Hachem va te pardonner. T'as tué. Catastrophe. Terrible. C'est une horreur. Nachon. T'as volé. C'est une horreur. T'as menti. C'est une horreur. Tu t'es pas levé à la tefila. C'est une horreur. Tu fais du lachonara. C'est une catastrophe. T'es khatsouf. C'est une catastrophe. Mais on continue à vivre. Continue à vivre. Quoi, on continue à vivre? Tu vas pouvoir réparer. Tu vas faire tchouva. Yétof. Mais il y a des fautes qui sont des fautes de non-retour. C'est des fautes, pas des fautes de non-retour. Tu peux retourner, tu peux faire, tu vois, il faut faire, tu vois, par rapport à ce niveau. Mais la conséquence, je vous donne un exemple très simple. Une personne a fait du Lashon Hara. On lui dit, ok, toi, tu sors du camp. Tu dois prendre conscience, c'est quoi être séparé du camp. Parce que Shimon, tu as commencé à dire du mal sur lui pour le séparer du groupe. Alors, on te fait vivre ça. Tu sors du groupe pour vivre ce que c'est. Tu as voulu voler? Alors tu vas travailler pour la personne pour laquelle tu as voulu voler, comme ça tu répares. Tu sais pas, tu veux l'argent facile, on va te faire travailler pour savoir ce que c'est la valeur de l'argent. Toutes les punitions, elles sont chinouchites. Elles viennent nous éduquer pour nous faire prendre conscience du mal qu'on a fait. Jusque là ça va? Mais il y a des fautes où il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire que je suis en train de dire, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas être. Alors là c'est fini. Tant que tu diras « je ne veux pas être », il n'y a pas « bon, on va t'apprendre à être ». Non, alors c'est la conséquence directe de ce que tu dis, c'est mourir. Deux secondes. Il y a des fautes comme ça qui sont des fautes suicidaires, c'est même plus des fautes. C'est « je ne veux pas vivre ». Alors, quand est-ce que c'est ces fautes-là? C'est quand tu contredis le pourquoi de ta vie. Quand tu contredis le pourquoi de ta vie, pourquoi tu as été créé, alors tu meurs automatiquement. Je vous donne un exemple très simple. Si un beau jour, sans faire de la pub, ce Sishtaïm, il se réveille un beau jour et dit « Je ne veux plus être téléphone. » Et bien, au même moment, il meurt. S'il dit « Je ne veux plus être téléphone » alors qu'il a été créé pour ça, au même moment, il meurt. Si une voiture, un beau jour, elle dit « Je ne veux plus être automobile. Je ne veux plus rouler. » Alors, c'est une épave. Si une fleur, un jour, elle dit « Je ne veux plus être fleur. » Alors, elle disparaît totalement. Si un homme, un jour, il dit « je ne veux plus être homme », il disparaît totalement. Si un peuple, et dans notre cas, le peuple d'Israël, qui dit « je ne veux plus être peuple, je ne veux plus être une nation, je ne veux pas avoir un royaume, je ne veux pas retrouver Israël, je ne veux pas reconstruire notre royauté », Hachem dit « mais c'est pour ça que je t'ai créé ». Conséquence directe de leur volonté égale perdition de soi. Ça s'appelle en hébreu « klaya ». Ça nous rappelle quoi? La différence entre Chet Aegel et Chet Ameraglim. Chet Aegel, c'est une faute catastrophique. La faute du veau d'or. Mais on peut le réparer. On va faire tchouva, Moshi va monter, il va descendre. Il va monter, il va descendre. Il va monter, il va prier, faire tachanounim, slichot, yom akipurim. On reçoit de nouveau l'étape de la loi. Hachem nous a pardonné. C'est l'article qui doit rire. C'est une faute énorme. Non, mais une réparation. Faute des Meraglim, faute des explorateurs qui disent on rentre en Eretz Israël. Là, tout le monde meurt. Makara. Makara. Donne-leur des cours sur Eretz Israël, emmène-le au Machon Meir. Non, là, ils sont en train de dire, on ne veut pas être le projet qu'on doit être. C'est pas on fait mal le projet. Chet Aegel, c'est on fait mal le projet. Ne pas se lever le matin, on fait mal le projet. Ne pas mettre cette filine, on fait mal le projet. Mais de dire, je ne veux pas être, ça veut dire, je ne veux pas le projet. Ça, c'est ma chouchère. Ça, c'est disparaître. Ne pas rentrer en Eretz Israël. Cette génération qui ne veut pas en Eretz Israël, elle doit disparaître parce qu'elle est en train de dire « Je ne veux pas être ce que toi, Hachem, tu veux de nous. » Toute personne qui s'est prosternée au Tselem, ils sont en train de dire « Je ne veux pas être nation. Je veux être religion juive. Je veux être de confession israélite. Ça, oui. Mais je ne veux plus être nation. je n'espère pas au retour du roi David. Alors là, Hachem, il te dit, bon, aide-moi la sotte. Il n'a rien à faire là. Il n'a ni t'envoyer en exil, parce que tout le but de l'exil, c'est de prendre conscience qu'on doit retrouver notre nation. Si toi, tu es en exil et tu as oublié le but, ce pourquoi tu as été créé, Vesra le Gogadol, Venivre Rouvera Kolmishpechot Adama, Amzo Yatartiliti Ilati et Sapeo, qu'on a été fait peuple, nation, tu veux plus être peuple, nation, tu veux être religion, secte, philosophie, Azov. Tu as fini ta fonction. Sur ça vient Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi par Ruach HaKodesh. Il sait dans quelle situation la nation se trouve. Il va devoir renverser cette situation et rappeler à tous les juifs dans le monde entier qu'on n'est pas une religion juive, qu'on est une nation d'Israël. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ramener la Géoula et que Vena Afochou et que Man va pouvoir tomber. Okay,
mais juste, ils sont prosternés, mais c'était involontaire, c'était pas de leur volonté.
C'était volontaire. Ils savaient tout ce que je te dis là,
si,
tout le monde
si
le savait.
Ils n'avaient pas, ils avaient la mort, la peine de mort.
Et ben voilà.
Ils étaient obligés, ils étaient forcés de se prosterner.
Je te dis, regarde le régachot, il y a des Lévim dans cette salle ? Des Lévim. Les Lévim. Non, toi, t'es plus Lévim. T'étais peut-être, t'es plus. La preuve, c'est que je sais pas jouer de. Tu sais jouer d'un instrument ? Non, t'es pas Lévim. Tu sais chanter ? Tu vois ? Non, pourquoi je te dis ça ? Parce que les Lévim, quand ils ont trouvé vol pas cher pour Babel. Ils ont été déportés à Babel. Ils ont été déportés, les nazis babyloniens, comme les Romains, comme ils sont venus dans notre pays et ils nous ont déportés. En nous déportant, on a traversé l'Euphrate, Nahon, ou on a traversé, Yarden, c'est-à-dire le Jourdain. Il y a le Jourdain, on traverse la frontière. Et là, les Babyloniens, comme les nazis marchaient même, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ah, mais il y a les Lévim. Ah, mais c'est les grands musiciens. Alors chantez-nous les chires de Sion. Al-Naharot Babel. Et les Goïm, vous savez ce qu'ils ont fait sur ce chant qui est nous, le chant, on n'a pas le droit de le chanter Shabbat. On n'a pas le droit de réciter ce psaume Shabbat. Ils en ont fait une chanson, la chanson la plus heureuse du monde occidental. Ça s'appelle, je ne vous donne pas la musique, mais je vous donne les paroles. On the arrival of... Ah, vous ne connaissez pas ? Hein ? Non, on the arrival of Babylon. On the arrival of Babylon. Tan, 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 tan. Et tout le monde chante, etc. C'est quoi ? Bon, Hashem, je ne me rappelle pas, tu vois, c'est des trucs. Mais tu te rends compte ça ? Et nous, c'est Al Naharot Babel, sur les fleuves. Sur le Naharot Babel, sur le fleuve de Babel. Al Naharot Babel, Sham Yashavnu Gambachinu, Vezochenu et Tzion, on se rappelle de Tzion, etc. Et les Goïm, ils chantent ! Et nous, on pleure parce que c'est le jour de notre déportation. Et qu'est-ce qu'ils disent les Goïm ? Chantez les chansons, comme les nazis, comprenez le truc, comme les nazis. Ils disent, ah, vous avez vos instruments de musique, vous avez apporté votre harpe, allez, vas-y, commence à chanter, commence à jouer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Lévim ? Ils ont coupé leurs pouces pour pas jouer. Maintenant, tu te dis, où c'est marqué dans le Shulchan Aruch, t'as le droit de couper des pouces pour pouvoir pas... C'est marqué dans ce Shulchan Aruch qui s'appelle le cœur d'Israël. Si c'est clair pour toi que ce que le Goy fait, c'est porter atteinte à la fierté nationale d'Israël, tu dois mourir pour ça. Ça, c'est le Shulchan Aruch de Hananiah Mishael Azariah. Ça, c'est le Shulchan Aruch de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est le Shulchan Aruch de Mordechai Yehudi. Ça, c'est le Shulchan Aruch du Ham Israël qui n'est pas dans la galoute engloutie. Si tu es englouti dans cette galoute, alors tu te prosternes devant tout ce qui bouge. Et quand François Hollande est invité à l'Elysée, t'es super content. Et quand on te dit, mais attends, comment tu peux oser ? Tu te dis, mais non, tout sera cachère. Tout sera cachère. J'ai fait en sorte qu'on respecte la cacheroute. Mais Adonis, tu veux avoir un Rosh Hashana, t'es pas... Tu dois être en Eretz Israël, qu'est-ce que tu fais chez lui ? Tu te prosternes devant lui ? Non, non, je ne comprends pas votre discours. Tout est cachère. Englouti. Tu peux avoir une kippa, les péotes les plus longues. T'es englouti. Ça dépend pourquoi. Si t'es invité à l'Elysée en tant que représentation de la nation d'Israël et que tu viens dire Let my people go. Let my people go. Shlach et ami. Si tu viens en tant que ça, là, va à l'Elysée, tzadik. Je t'envoie moi demain, je te paye le billet d'avion, l'air. Mais si tu vis en tant que juif galoutique, je t'explique le truc. Le truc, il est comme ça. Il n'y a pas de secret, là. Je vous dis tout, là. Mordechai et Yehudi, OK? Il va comprendre qu'il va devoir influencer. Achashverosh. Achashverosh, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il embête? Qu'il y ait des juifs dans son état? Mais putain! Les juifs, c'est super. Ça emmène de l'argent, ça fait tourner le commerce. C'est extraordinaire, les juifs. Les juifs, c'est pas une personne raciste, basse, qui aime, qui aime pas les juifs. Achashverosh, il kiffe les juifs. Il veut ses juifs. Il veut les comptes en banque des juifs. Il veut la sagesse des juifs, l'intelligence, la truc. Il veut la force des juifs. Qu'est-ce qu'il veut pas? L'État d'Israël. C'est ça qu'il veut pas. Maintenant, les juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, regarde, ils nous respectent, ils nous construisent des mikvés, ils nous construisent une synagogue, ils nous mettent des soldats, on est comme des diamants. Regardez l'imbécilité, regardez la galoute. Regardez la galoute comme un galoute. Une personne religieuse, très religieuse, elle dit, quand on leur dit, attendez, regardez maintenant, vous avez des soldats. Vous avez des soldats qui sont en train, c'est-à-dire les gens qui étaient en Centrafrique, les gens, les parachutistes français qui sont en Centrafrique, maintenant, ils sont en train de vous garder vos synagogues. Mais réveillez-vous, là. Réveillez-vous. Vous ne voyez pas, vous, nous, les juifs qui habitent en Israël. Vous ne voyez pas. On est plus important que la place de Vendôme. Place de Vendôme ? Place Vendôme. On est plus important que la place Vendôme. On est plus important que des diamants. On est les diamants du monde. Et tous les diamants, ils sont en train de nous... On est là, les diamants du monde. Mais il est aveugle. Il est aveugle. François Hollande, Obama, ce qui les embête. C'est pas que tu sois juif religieux en France. Il est hyper content de ça. T'es en train de renforcer la République française. T'es en train de renforcer la nation. Plus tu fais une mitzvah, plus la France, elle grandit. Mais la seule chose qu'il veut pas, c'est Israël. En tant que nation, il veut pas. C'est ça qui l'embête. Quand tu vas chez le médecin, tu dis, je sais pas, je me sens pas bien. Le médecin, il te touche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait 10 ans de médecine, mais je pense que le mal il vient d'ici. Pas besoin, mon père, un jour, un matin, je sais pas ce qui m'est arrivé, je lui dis, papa, je veux faire vétérinaire. Alors il m'a dit, fais attention mon fils, parce que vétérinaire, le chien il vient pas, il va pas te dire j'ai mal là, il faut... Après je me suis dit, c'est très simple, là où tu vas le toucher, commence à avoir mal. Maintenant, sache que le mal, le Yetzarara, la Sitrara, le royaume obscur, les ténèbres, le mal, c'est la même chose. Là, quand tu lui fais mal, c'est l'endroit sensible. Qu'est-ce qui embête François Hollande? C'est quand Bibi Netanyahu y parle. Qu'est-ce qui embête Obama? C'est quand Bibi Netanyahu il va défendre l'intérêt de l'État d'Israël. Quand tu lui présentes un projet de construction d'une école juive en France, tout a les budgets... Toutes les portes s'ouvrent. La France a besoin de ses juifs. La France sans les juifs, c'est pas la France. Mais bien sûr. Et là, c'est quoi? Mais quand tu commences à construire une petite cabane en Judée, quoi de plus naturel qu'un Juden construit en Judée? Vous pouvez m'expliquer là? Un Juden qui construit en Judée, ça paraît le crime contre l'humanité. Et là, le monde entier, il commence à faire ah! Pourquoi? Parce que c'est là où ça fait mal. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Si tu habites à côté du Kotel, dans le quartier qui s'appelle pour l'instant quartier musulman, et tu libères une maison et t'as acheté de ton propre argent, le monde entier, non, comment des juifs peuvent habiter à côté du Kotel? Je comprends pas. C'est impensable. Réunion de toute l'ONU. Ils ont mal. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais une personne qui se balade et qui se dit, voyez, je sais ce qu'il faut faire pour repousser le mal. Mettre les tefilines en plein métro du Bronx à New York. Vous dire, ça ne fait rien. Non, il doit faire. Il doit faire. Mais t'as, il doit mettre les tefilines. Il va se droguer à la place. Non, il doit mettre les tefilines. Mais s'il pense que grâce à ça, il fait repousser le mal, mais non, il a renforcé le Bronx. Il a fait la volonté d'Hachem et c'est ce qu'il doit faire. Mais les répercussions de ça, il a renforcé le Bronx. T'es venu sur Terre pour renforcer le Bronx ou pour renforcer Yerushalayim? Pour renforcer Bnei Brak, pour renforcer le Machon Meir, pour renforcer le peuple d'Israël qui vit sur ta terre. Pourquoi t'es venu? Hachem, il t'a donné un sérel énorme. T'es un super grand médecin. Alors, Nachon, tu peux soigner Jean-Françoise Christine, une très bonne dame. Mais il y a David Lévy qui est sur son lit en train de peut-être mourir parce qu'il s'est mis en danger pour sauver d'autres juifs. C'est un soldat d'Israël. Il a besoin du plus grand professeur. Et toi, au lieu de venir le sauver, t'es là-bas en France en train de sauver des gens qui sont sympas. Ils sont gentils, j'ai pas dit ça. Mais c'est pas ta famille. C'est comme un père, il va d'abord sauver les voisins avant de sauver ses propres enfants. Un juif en France, il est en train de sauver des gens qui sont bien, ils sont sympas. Mais sauve tes enfants avant. Tous les juifs qui sont en France, ils doivent monter en Eretz Israël parce que c'est leur famille, c'est leur maison, c'est leur frère. Et si une personne, il pense à aider économiquement la France, il aide des ennemis qui, il y a 40 ans, ils ont vendu des juifs au lieu d'aider sa propre famille. Si tu n'as pas ce sentiment-là, si tu n'as pas ce regesh, tu es out. Comme dit le Rav Ashkenazi, la cache-route, t'a caché la route. Tu ne vois plus rien. La route vers Israël. Tu ne vois plus la route vers Israël. Il n'y a plus de route. Il y a une route. Yerushalayim.
Mordechai,
il a sauvé Achashverosh. Parce qu'il sait comment ça se passe. Parce qu'il comprend tout ce qui va passer. On a besoin qu'il y ait quelqu'un là-bas. On a besoin qu'il soit marqué. On a besoin qu'il soit attaché au mal à Achashverosh. Parce que c'est lui qui va être l'influence. C'est lui qu'on devrait. Avant le décret qu'il arrête ? Non, il a arrêté. Mais une personne qui se lève et qui dit « Ouais, il faut tuer Obama », il a rien compris. Ou une personne qui se lève et dit « Ouais, il faut exploser le dôme de trucs. » Pour pas citer, des proches de ma famille me disent « Ouais, tu sais quoi la solution ? Après un cours d'orote, etc. Tu sais quoi la solution ? C'est de faire exploser le dôme d'or. » Je dis « Vous avez rien compris. Ouais. » Surtout ne fais pas ça, parce qu'avec mes impôts à moi que je paye, on va le reconstruire d'or et d'argent et de diamants. Surtout, ne fais pas ça. Je vous ai raconté le t-shirt de mes enfants. Ils avaient un t-shirt, le dôme comme ça. Il y avait une grue, ça s'appelle kippat, kippat zav. La kippa d'or. Il y a une grue comme ça qui l'enlève comme ça. Ça va se passer comme ça. Hein. Une grue qui va arriver, il l'a enlevé comme ça, parce qu'on va récupérer l'argent, je pense, l'or et l'argent. Il y a le dôme comme ça qui part, et il y a marqué en haut, l'ifamim tsarir la date, l'orid et ta kippa. C'est-à-dire, des fois, il faut savoir enlever la kippa. Est-ce qu'il faut enlever la kippa? Bêta qu'il faut enlever la kippa. La kippa, t'as zav. Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, il vient de là. Le cœur du juif. Parce que le problème, c'est le cœur du juif. Tu tues Obama, il y a un autre Obama qui pousse. Tu tues... Prends du danger. Tu viens... Et là, c'est quoi? Tu détruis une mosquée, une autre mosquée qui va pousser, ou 10 en plus. Et là, c'est quoi? C'est changer le juif. Le cœur du juif. Hanania, Michel, Vazaria. Il voulait entraîner une ma'apéra dans l'âme Israël. Une révolution dans l'âme Israël. Et c'est ce que Mordechai Yehudi va faire. Et les juifs ont dit, attends, tu nous mets en danger, etc. Mais moi, ce qu'il faut les varier, hein, c'est comment il va réussir à faire ce renversement. Et surtout, c'est quoi le piège de Achashverosh? Parce que demain, on verra. C'est le jeûne. On finit, je vous explique. Chaque année, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. On finit jamais les cours sur Purim. Mais moi, ça m'est égal. Rien que vous compreniez ça, ça y est, on a gagné Purim. Le cours le plus important, c'est demain. Parce que Mordechai Achashverosh, il dit, je vais faire mon festin. Je l'ai fait 6 mois pour fêter que moi, je suis le nouveau roi. Mais peut-être ils vont faire tchouva. Je vais empoisonner les juifs. Vous savez ce que c'est empoisonner? C'est comme le nachash. Shmuel, c'est comme le nachash. Comment il fait le nachash? Il te pique. Et tu fais comme ça. Ça m'a rien fait ton truc. Et tu continues à marcher comme si de rien n'était. Et puis Tom, en une seconde. Ça marche? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire à Achashverosh? Il va mettre son venin dans le Ham Israël. Maintenant, à qui tu veux porter atteinte? Comme je ne dis pas, les gens qui vont en discothèque, boire du vin, etc. Ça c'est sûr, c'est facile. Un peu de vin, il tombe. Un peu d'alcool, il tombe. Un peu de musique, un peu de femme, tout tombe. Il va porter atteinte au cœur d'Israël. C'est qui le cœur d'Israël? Les sages. On parle de pas n'importe quel sage, on parle du Sanhédrin. C'est-à-dire, c'est le top niveau du Ham Israël. Et quand ils vont porter atteinte, ils vont faire un piège. Ils vont faire un piège pour piéger les sages d'Israël. Maintenant, mauvaise nouvelle, Mordechai Yehudi tombe le premier dans le piège, avec tous les Chachamim. Qu'est-ce qu'il dit? Mordechai Achashverosh, il invite tous les Juifs et tous les peuples à venir. Maintenant, Mordechai Yehudi, il dit, on doit réparer la faute du Tselem. T'acceptes de rentrer ou pas? Alors, Mordechai Yehudi, il dit, on accepte de venir à condition que tout soit kasher.
C'est quoi le rapport entre le Tselem et Souda?
Alors, il te dit, non, Achashverosh, il ne fait pas ça. Il fait ça, on va les inviter à la fête pour fêter la fin du Ham Israël.
Mais quel rapport de réparer le Tselem?
parce qu'on était à cause du Tselem, que tout le monde s'est prosterné, ils ont dit à Hachem, on ne veut plus être une nation. Mordechai Yehudi veut leur rappeler qu'on est une nation. Alors là, oui, il y a un passage difficile là. Si tu veux leur rappeler qu'on est une nation, tu vas dire, regardez, on va aller chez Ahasvéroch, et au lieu de faire comme les autres nations, on va faire comme la nation d'Israël. On va demander à être séparés, des tables séparées, une musique séparée. Il va avoir des douchanim de tefillin, de tzitzit, de nérot, de shabbat en l'entrée du michté. On va demander que tout soit kasher, qu'ils nous respectent en tant que nation différente. Et on va montrer à ces goyim qu'on est am levada d'ishkon ou bagoyim l'utrachav, qu'on est un peuple différent et séparé des goyim et qu'on est totalement différent. C'est une bonne intention ou pas? Ça oui. C'est pas qu'il va chez Ahasvéroch se prosterner. Il dit on est am Israël chai, on va chanter am Israël chai du début jusqu'à la fin. Et Ahasvéroch, il a dit pas de problème, tout sera kasher. Parce que son but, ça le dérange pas du tout. Soyez juif ici. Mais ça, au début, Mordechai, il a pas compris ça. Il a compris qu'il voulait montrer à Ahasvéroch qu'on était juif et qu'on était fier de l'être. Il a dit oui, vous êtes juif, mais ici. Et il va prouver que ça, c'est qu'ils sont transformés en religion, qu'ils ont cessé d'être une nation quand il va sortir les kélim du Beth Amikdash et que personne n'a bougé. Il a dit vous êtes ici et pas là-bas à Jérusalem. C'est ça que je veux. C'est ça ma réussite, dit Ahasvéroch. Et ça, on va voir comment ça se passe. On va étudier des gdolim qu'on écrit sur ça, le Khatam Sofer, et vous allez tomber de vos chaises. Parce que c'est incroyable. Chaque année que je relis ça, tu me dis, c'est pas possible. Khatam Sofer, c'est le Rav de Presbourg, il y a 200 ans. Quand tu dis Khatam Sofer dans le monde des yeshivot, tout le monde se... Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Quand tu dis, tu sais, le Rav Kook, il a écrit. Bon, d'accord, on sait bien. Rabbi Nathan ou Rabbi Nachman de Breslav, il a écrit. Bon, d'accord, c'est bien. Le Rabbi Kouaïch, il dit. Bon, c'est bien, ok, c'est bien. Khatam Sofer, quoi? Le Khatam Sofer, il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Redis-moi exactement ce qu'il dit. Ou le Gaon de Vilna, il dit. Le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Parce que le Gaon de Vilna, Khatam Sofer, il n'y a pas de machloket, quoi. Tout le monde reconnaît ça. Et regardez comment il parle de cette période et de quelle façon il va analyser la Seouda de Ahasvéroch. Incroyable. Tout ça, nous verrons demain. En plein jeûne, vous aurez faim, mais vous serez là en train d'étudier la Torah pour faire le Tikkun de Purim. Purim, sa mère, quoi.